Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'expérience inédite. Je suis Patrick Walid, partenaire Digital Experience et Retail au sein du groupe OnePoint. Depuis des millénaires, les êtres humains se sont échangés des commodités, des biens, des services. Depuis moins de 20 ans, l'histoire s'est accélérée et tout a changé. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur et révolutionne nos habitudes de consommation. Autour de 5 questions, nous échangeons ici avec une personnalité forte et inspirante qui nous partage sa vision de l'expérience dans son secteur. Commerce, distribution, culture, food, hôtellerie, tous les secteurs sont impactés. Pour changer, en échangeant, avec la touche OnePoint, au-delà de l'évidence. Bienvenue dans l'expérience inédite.
On vous a jamais dit « le client est roi ».
S'il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs.
Ce magasin est magique.
Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
Maître, vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis.
Ouvrons le magasin.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'expérience inédite, qui est donc un live Instagram. On reçoit aujourd'hui Nicolas Dupeux.
Bonjour.
Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être là avec nous. Pour rappel, on va retrouver un petit peu cet échange qu'on a aujourd'hui en live. Pour ceux qui ne pourront pas le suivre dans leur intégralité, on pourra le suivre en podcast sur Spotify et sur Apple. Donc vous le voyez, pour ceux qui nous suivent depuis la première édition, un nouveau setting. On se trouve aujourd'hui dans les locaux de OnePoint et on respecte, entre Nicolas et moi, la distance d'un mètre. Normalement, notre bras à peu près nous permet de nous séparer et de garder la distanciation sociale qui nous a tant pesé ces derniers mois et qui a eu des impacts évidemment sur le business de l'industrie et sur l'industrie du spectacle en général et à l'Accor Arena. Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Pour te présenter rapidement, tu es aujourd'hui depuis 2 ans et demi, je crois.
Exactement.
À la tête de l'Accor Arena, salle de spectacle mythique à Paris depuis 35 ans. Beaucoup d'entre nous ont des souvenirs et des expériences extrêmement fortes dans cette salle depuis très longtemps. Auparavant, tu étais chez Disneyland Paris.
Ouais.
Et une carrière dans l'entertainment, l'événementiel, de manière plus spécifique auparavant. Donc tu es un fin spécialiste, un fin connaisseur de ce secteur d'activité sur lesquels on voulait échanger, on voulait avoir ta vision sur l'impact de l'expérience, puisque c'est bien ce qui nous occupe aujourd'hui. 5 questions, une trentaine de minutes pour pouvoir nous exposer ta vision de ce que c'est que l'expérience dans ces lieux très spécifiques que sont les lieux de spectacle, que sont les lieux dans lesquels on vient pour vivre un événement, pour vivre une expérience. Donc tout de suite, ma première question pour toi, je sais que tu portes une vision stratégique qui est de faire de l'Accor Arena ce qui est un lieu d'événement de manière absolument indiscutable, de transformer ce lieu d'événement en plus un lieu de vie, un lieu d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de ça et du coup nous donner ta définition de l'expérience?
Alors, sur la définition de l'expérience, je vais peut-être centrer un peu le mot d'expérience, parce qu'en fait l'expérience, ça reste très large. Je crois que tout est expérience dans la vie, parce que l'être humain se nourrit d'expériences, de découvertes. Donc le mot expérience est un mot assez large. Je propose qu'on le recentre en fait sur ce qui est vraiment pour nous à l'Accor Arena et dans des lieux comme le nôtre. C'est ce qu'on appelle en anglais la user experience, et nous on va plutôt que l'appeler l'expérience consommateur, on va l'appeler plutôt l'expérience client, l'expérience spectateur. C'est vraiment pour nous l'enjeu essentiel, c'est cette expérience qui va tourner autour de nos clients et de nos spectateurs. Nos clients, ils peuvent être nos clients producteurs, organisateurs, nos clients VIP et puis nos clients prestataires. Alors, spectateurs, pardon. Comment on va définir cette expérience? Pour moi, la définition de l'expérience, en fait, c'est les émotions qu'on va ressentir et qui vont laisser une trace, un souvenir fort. C'est ça l'expérience, c'est quelque chose que l'on va vivre, dont on va se souvenir et qui va être marquant. Et nous, tout l'enjeu, c'est de travailler sur le parcours client pour que tous ces touch points du parcours client participent à cette expérience. Et finalement, on se définit comme un amplificateur d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, on l'a en venant, on l'a en allant voir le spectacle, en allant voir un artiste, en allant voir une compétition sportive. Mais nous, notre lieu, c'est un lieu d'amplification où on doit venir maximiser cette expérience et la rendre encore plus forte. Pas forcément pendant le show, parce qu'on sait que des fans qui viennent voir un artiste, ils sont mus par la passion. Donc, l'expérience, elle est déjà parfaite parce qu'ils viennent voir leurs artistes préférés ou leurs sportifs préférés. Donc nous, l'enjeu, elle va être sur l'aval, l'amont, l'aval, depuis le moment où on a connaissance d'un événement, la billetterie, le moment où j'arrive à l'aréna, les parcours dans l'aréna, le poste, etc. Et on va travailler sur tous ces éléments de l'expérience.
Donc avant, après, ce qui va se passer avant le spectacle, après le spectacle, tout ça fait partie de l'expérience pour toi.
Oui. Et en fait, l'expérience, elle est complète. C'est l'expérience d'un parcours client, au sens large du parcours client. Et la manière dont ça chemine dans le parcours client, bien avant, hein, plusieurs dizaines ou plusieurs mois à l'avance, à partir du moment où on a connaissance. Après, le moment fort, c'est le moment physique. Nous, on a une expérience aussi qui vient mixer du digital et du physique. C'est-à-dire qu'on a avoir toute la période en amont qui est une période plutôt digitale, sur notre site, sur la billetterie. Et puis ensuite, le physique, c'est j'arrive à l'aréna. Qu'est-ce qui se fait que quand je franchis la porte, quand j'attends dans la file d'attente, je vis quelque chose, en fait. Et tout l'enjeu, il est double, en fait. Nous, notre enjeu, c'est un, si on veut avoir une bonne expérience, il faut connaître ses clients. Il n'y a pas de bonne expérience sans bonne connaissance du client. Donc l'enjeu, c'est si on veut bien servir nos clients, il faut les connaître. Et s'il faut les connaître, il faut travailler sur la data, sur le CRM, sur le ciblage. Ça, c'est un enjeu qui est clé, c'est comment on va bien connaître les clients. Et après, c'est comment on va bien les engager. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose dans ce parcours qui va faire qu'ils vont vivre quelque chose qui va être marquant, différent, engageant, créer des communautés, faire des animations.
D'accord.
Voilà, toutes ces choses-là. Et donc, on est vraiment sur ces deux axes. C'est je dois connaître mon client, je dois l'engager, je dois l'activer. On parle beaucoup de polysensoriel ensemble parce qu'on a l'occasion de travailler sur tous ces sujets-là. Mais c'est aussi comment j'active les sens, tous les sens. Et on sait que c'est en activant les sens qu'on crée des émotions, qu'on laisse une trace. Voilà, c'est un peu tout l'enjeu sur lequel on travaille aujourd'hui, nous, de l'expérience consommateur que j'aime pas trop, que nous, on appelle expérience plutôt client-spectateur.
Ouais, forcément. Ouais, ce qui est super intéressant, parce que c'est pas complètement intuitif de se dire... Quand je viens en spectacle, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées en amont. Il peut se passer des choses après, mais que finalement, on a l'impression que bon, la salle est la salle. Je viens pour un événement, mais en fait, on peut venir pour autre chose que ça. Ou en tout cas, on peut trouver des expériences positives ou des impacts, tu appelais ça tout à l'heure, des émotions, des traces, des souvenirs. Il y a d'autres choses que le spectacle en lui-même, que l'événement lui-même qui peut laisser une trace.
C'est ça. En fait, c'est l'enjeu et le levier sur lequel on travaille aujourd'hui. C'est que... On considère jusqu'à présent que les salles de spectacle sont un lieu dans lequel l'expérience à vivre est celle du spectacle qu'on va voir. Nous, on dit que cette expérience à vivre, c'est la raison d'être de venir voir un spectacle, mais que la raison d'être de l'expérience générale, c'est de venir dans un lieu de destination dans lequel on va vivre quelque chose sur toute la période. Et que finalement, le contenu est le faire venir, parce qu'on vient pour voir un artiste, mais quand on y repart, on a passé un moment qui est un moment différent. Et c'est vrai que on tisse souvent un peu des parallèles, soit avec le retail, soit notamment... moi, j'aime bien l'exemple des aéroports, en fait. Il y a quelques années, quand on prenait l'avion, qu'on arrivait à Roissy, une fois qu'on avait passé le côté de la sécurité, bon, il y avait 3 boutiques de duty-free qui se battaient en duel et c'était terminé. Aujourd'hui, les aéroports travaillent en disant « cette séquence-là, c'est une séquence dans laquelle on fait vivre quelque chose aux consommateurs. Donc il y a des boutiques, il y a des passages obligés, etc. »
Il y a des PlayStation pour
jouer. Il y a des PlayStation pour jouer, il y a des partenaires qui s'activent. Ben, nous, c'est un peu pareil, en fait. Et ces voyageurs, pardon, ils viennent pour prendre l'avion. Ben, nous, c'est un peu pareil. On ne vient pas pour prendre l'avion, on vient pour voir un spectacle. Mais comment nous, le lieu dans lequel se déroule cet événement, va proposer à ce spectateur quelque chose sur tout son parcours.
Parce que la conclusion, enfin, votre approche, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de temps perdu ou de choses à occuper dans l'espace ou dans le temps, d'ailleurs. Mais quand tu dis... c'est vrai, quand on prend l'avion, l'analogie est effectivement très, très claire. On vient longtemps à l'avance à l'aéroport parce qu'on est obligé. On a l'impression, parfois, sur certains spectacles, de venir longtemps à l'avance parce qu'il faudrait faire la queue ou parce que intrinsèquement on ne sait pas exactement à quelle heure ça va démarrer ou etc. Mais en tout cas, il y aurait une raison qui fait que, enfin, il y aurait une valeur à aller occuper ce temps qui est si précieux pour tout le monde. C'est ça, il y a des choses à faire pendant ce temps-là.
Oui, c'est ça, il y a des choses à faire, il y a des communautés à créer, il y a des gens à rencontrer. Encore une fois, nous, la grosse différence qu'on a par rapport à l'aérien, c'est que l'aérien, quand tu prends l'avion, c'est soit pour faire un soit il y a une peur, parce que prendre l'avion, voilà, soit il y a du temps perdu, parce que quand on prend 6 heures d'avion, c'est du temps. Nous, nos spectateurs, ils viennent pas, ils sont mus par la passion de voir l'artiste. Donc ils sont déjà très ouverts à vivre des expériences. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est comment ces spectateurs qui se connaissent ou qui sont des fans du même artiste, eh ben on va faire en sorte qu'ils s'engagent, qu'ils créent des communautés entre eux, leur apporter des services, des jeux. Voilà, activer tous ces temps-là.
Très intéressant, merci beaucoup. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma deuxième question, est-ce qu'il y a sur cette question de moment, est-ce que toi, il y a eu un moment dans ta vie pro, dans ta vie perso, un moment clé où tu t'es dit l'expérience a énormément de valeur pas seulement dans l'acte de consommation, dans l'acte d'achat, mais comme tu le disais tout à l'heure, dans la trace que ça peut laisser. Est-ce que tu as un exemple à partager avec nous ? J'aime bien ce côté un peu vivant, un peu perso, peut-être d'ailleurs, que tu pourrais nous partager.
Oui, alors ça va être plutôt professionnel que personnel, mais moi, j'ai été profondément marqué, donc preuve que l'expérience était forte, et marqué positivement parce que j'ai pu vivre chez Disney, en fait, chez Disneyland Paris. Mmh. C'est-à-dire que quand on est dans un parc Disney, l'expérience, elle est poussée dans tous les détails. On ne voit pas forcément quand on est un guest et qu'on se balade, mais en fait, tout est pensé. C'est pensé depuis la musique. On arrive dans un land, dans un univers, il y a une musique spécifique qui met déjà. C'est pensé dans la décoration, c'est pensé dans les couleurs, c'est pensé dans les revêtements au sol. Tout est fait pour plonger, rendre immersif dans cette expérience-là. Et c'est, moi, je trouve que c'est très fort parce que on ne le voit pas. Bien et sûr. Ce qui est plus fort, c'est quand on ne le voit pas. Et, et preuve en est, c'est qu'il y a une fonction qui est majeure dans les parcs Disney, ça s'appelle des imagineurs. L'imagineur, c'est un mot valise qui veut dire les ingénieurs de l'imagination. Et ça prouve que l'imagination au service de l'expérience, Disney l'a poussée pour venir presque la processer de manière comme des ingénieurs, en fait. Mmh. Et ces personnes-là travaillent sur comment, dans chaque parcours, on va venir maximiser cette expérience. Et donc ça, moi, j'ai eu l'occasion maintenant d'y aller à titre personnel, après avoir été à titre professionnel. Et en fait, quand j'y vais, j'essaie de me dire, tiens, je ressens ça, et c'est lié à quoi, en fait ? Et c'est lié parce que, voilà, quand on se balade dans Main Street, on voit, pour ceux qui iront bientôt dans les parcs, quand ça va vite réouvrir, vous allez voir que sur les vitres sont indiqués des noms, etc. Ça plonge dans l'histoire de Disney, en fait. Et c'est ça qui est très, très fort. C'est que tous ces petits gestes, tous ces petits points plongent dans l'expérience de manière très, très forte et très profonde, très immersive, tout en restant très discrète et pas envahissante.
Sur ce côté discret, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. J'ai eu la chance d'être cast member à Disneyland Paris il y a presque 30 ans.
Tu m'as jamais dit ça.
Non, c'est vrai. L'année de l'ouverture, en 92, hein, je crois.
Ouais, 92, ouais.
J'étais serveur chez Annette Zeiner, donc tu vois, à l'entrée du festival Disney à gauche, pendant quelques mois. Et on m'avait raconté une histoire qui était justement, qui m'avait marqué pour le coup, donc c'est quand même il y a presque 30 ans, que, peut-être que tu pourras pas répondre, que les antivols à la sortie des magasins où on peut acheter ces robes de princesse, etc., étaient faux, n'étaient pas activés, parce qu'en fait, on préférait, ou l'analyse avait été faite chez Disney, qu'il fallait mieux... pour une personne qui va voler, une sur mille qui va voler quelque chose dans une boutique Disney, ne pas embêter les 999 autres avec un vigile qui serait là pour l'arrêter. Je ne sais pas si tu peux répondre, hein, parce que c'est peut-être encore confidentiel et sous le sceau du...
Écoute, le problème, c'est que si je réponds, je serai obligé après de...
non. Alors, ne réponds pas.
Non.
Même si elle est fausse, l'histoire est intéressante. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras.
Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, je pense que c'est activé quand même, mais... La situation a changé en 25 ans aussi.
Ouais.
Les habitudes ont changé, les façons de faire ont changé. Je pense qu'il y a, à l'époque, de manière générale, dans le retail, il y avait aussi beaucoup moins de contrôle qu'il y a aujourd'hui. Donc je crois que les dispositifs s'adaptent aussi, malheureusement, aussi aux profils et aux habitudes, pas toujours les meilleures.
Merci, c'est une des très belles... Une magnifique manière de répondre sans répondre à la question, c'était très très bien. Mais en tout cas, que la fable, que ce soit une histoire vraie ou que ce soit une fable, on comprend que, comme tu le disais, il y a des imagineurs chez Disney. C'est à la fois, on a engineeré l'imagination. Et même ça, on aurait pensé, en tout cas, si cette histoire de... Toutes les histoires que tous les sujets pardon, dont tu nous as parlé, et même cette histoire de peut-être se dire qu'il faudrait ne pas embêter les gens tout autour, tout ça est pensé pour que l'expérience soit la plus...
Plus forte, en fait, c'est vraiment qu'on ne pense qu'à vivre un bon moment, en fait. Et que tout soit fait pour... tout à l'heure, je parlais d'amplification, en fait. C'est vraiment ça. C'est ce terme, on amplifie l'expérience par un travail en amont qui est considérable, en fait. Rien n'est gratuit, en fait. On ne peut pas penser, c'est ce qui fait la différence d'un parc Disney par rapport à d'autres, c'est que derrière, il y a énormément de réflexion, il y a énormément de travail sur les profils, sur les clients, sur la manière dont ils vont circuler et comment, à chaque moment, ils vont vivre une expérience différente. Ou pas. Mais c'est décidé et c'est choisi. Et du coup, on est très immergé là-dedans. Et je pense que c'est ça le rôle de ces ingénieurs.
Et j'aime beaucoup cette idée, alors j'imagine que vous développez aussi à l'Arena, que tout ça nécessite énormément de travail. Parce qu'on a l'impression d'être dans un domaine qui est celui, quand on parle d'expérience, qui est celui de la perception, de l'imagination, du sentiment, du ressenti, etc. Mais ce que tu nous dis, c'est que ça nécessite beaucoup de travail. Tout ça n'est pas... Pour que ce soit invisible, il y a énormément de travail, comme on dit que les humoristes, qui font passer les choses de la manière la plus fluide possible, ont beaucoup bossé en amont. C'est énormément de travail pour arriver à ça.
C'est beaucoup de travail. Je pense que celui qui dirait que c'est pas du travail et que c'est instinctif serait plutôt un menteur patenté. C'est beaucoup de travail pour bien comprendre à qui on s'adresse, bien connaître à nouveau le spectateur, mais aussi faire les bons dispositifs qui, en même temps, ne sont pas trop intrusifs. Le travail, il est sur qu'est-ce que je vais proposer, quel équilibre je vais avoir, quel juste équilibre. Parce qu'on le disait tout à l'heure, voilà, un spectateur qui vient voir son artiste, il vient pour vivre un moment de communion avec l'artiste. Si on est trop intrusif, on va lui gâcher son moment, en fait, de plaisir. Si on n'est pas assez, il ne va pas le voir. Donc c'est toujours comme, je dirais, moi je ne suis pas spécialiste de la cuisine, mais les bons gâteaux, c'est les bons ingrédients et c'est le bon dosage des bons ingrédients. Donc nous, on travaille sur imaginer, créer les bons ingrédients, ou en tout cas les mettre ensemble, mais dans le bon dosage, et après la bonne cuisson.
Justement, sur l'Accor Arena, est-ce que tu pourrais nous partager un exemple précis de quelque chose que vous avez expérimenté dans cette direction, qui pourrait être inspirant pour tout le monde, d'expérience qui aurait fait la différence. Comme tu le disais, les événements en eux-mêmes portent une puissance, la NBA, il y a encore quelques mois... Évidemment, les grands rendez-vous sportifs ou les grands concerts. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez expérimenté très concrètement, peut-être récemment ou plus de manière plus ancienne, dont tu t'es dit « Ah ouais, ça fait la différence, on a pu le mesurer, etc. »
Alors, c'est une réflexion aujourd'hui que l'on mène de manière assez large, qui est liée à notre stratégie. C'est, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de travail. Donc on est aujourd'hui en train vraiment de travailler sur tous ces parcours-là et tous ces éléments-là et comment on va les activer. C'est plutôt, nous, une stratégie qu'on va déployer à partir de la rentrée, de manière très effective. Par contre, je pense qu'il y a un point qui est pour nous un vrai point sur lequel on travaille, qui fait partie de l'expérience, c'est ce que j'appelle chez moi le « caring », en fait. C'est-à-dire cette capacité à apporter de la bienveillance et à bien servir nos clients. Et c'est un point qu'on développe aujourd'hui de plus en plus, qui vont dans les codes d'accueil, les codes de service, être toujours proactif, écouter nos clients, répondre à nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment maximisé et qu'on a vraiment appuyé maintenant depuis quelques mois. C'est comment est-ce que on n'a pas juste des clients? On a des habitués que l'on connaît, en fait, que l'on reconnaît, que l'on sert. On adapte l'ensemble de nos services là-dessus. Et ça, c'est vraiment des choses que l'on fait aujourd'hui qui font la différence. Et d'ailleurs, on est assez fiers de voir que dans cette période difficile, nos clients, on n'a pas des relations qui sont uniquement basées sur commercial, client, arena. On a des vraies relations quand on a... envoyer des informations, des actualités à nos clients de l'Arena, qu'ils soient producteurs, organisateurs, clients spectateurs ou clients VIP. En fait, on a vu la profondeur de la relation humaine qu'on avait avec eux. Ils nous ont répondu, on a engagé des conversations. On a, par exemple, sur la partie spectateur, fait une magnifique vidéo pour leur dire on vous attend, en fait. Et quand on voit l'engagement qu'il y avait sur les réseaux sociaux, ouais. Des gens qui disaient « mais nous aussi, on a envie de revenir », quand on voit sur les meilleures histoires qu'on a demandées pour les 35 ans, nos spectateurs qui disaient « mais j'ai un souvenir là, je me souviens, j'aime cette salle, j'aime ce que j'y vis », on dit « voilà, on a réussi quelque chose, on a réussi ce côté…
» Qui dépasse les relations.
Qui dépasse, qui est la bienveillance, ce que j'appelle moi le caring, c'est prendre soin d'eux en fait. Mais au sens, voilà, je m'occupe de mes spectateurs et je fais en sorte que ça se passe bien.
Oui, je trouve ça, enfin, pour être très, très, enfin, sans flagornerie, entendre parler de bienveillance de la part du DG, d'une des plus mythiques salles de spectacle, etc., là, on pourrait entendre des choses plus transactionnelles que relationnelles. On est dans un champ sémantique. Parler de bienveillance et en plus tu nous dis ok on a testé ça, on se rend bien compte qu'il y a du grip, que ça accroche. Je trouve qu'il y a un côté courageux de sortir des KPI, des indicateurs de business et de tester cette notion de bienveillance et en plus de constater que ça marche. C'est quelque chose de dingue, franchement. Enfin c'est assez
je pense
c'est
que
nouveau,
là,
c'est très nouveau. Non,
je sais pas si c'est nouveau, mais je crois que dans un lieu de passion, en fait, je disais tout à l'heure, dans un lieu de passion il faut vivre des émotions. Vivre des émotions, ça passe justement par ce qu'on fait vivre et par cette bienveillance. Maintenant, en plus, le gros atout qu'on a, c'est que tu parlais de KPIs et d'une partie plutôt financière, et ben ça devient aussi un levier de transformation là-dessus. Parce que quand les gens se sentent bien, ben ils consomment plus.
Bah oui.
Et finalement, c'est pas antinomique. C'est que ce côté humain, ben derrière, il se retranscrit dans les chiffres.
Ça peut se mesurer.
Ça se mesure, ça se voit, parce que les gens viennent plus souvent, parce que les gens ils nous font plus confiance. Voilà, et ça se voit. Ils sont plus fidèles. Ouais. Moi, je crois profondément que dans nos activités, qui sont des activités de plaisir et de culture, si on a une relation 100% tournée financière, on rate quelque chose. Oui, on va réussir sur un one shot, mais sur la durée, on ne va pas y arriver. Si on a une relation qui est plutôt une relation humaine, ça n'empêche pas derrière de faire des bons niveaux et des bons KPI. Je ne parlerai pas des résultats de ces derniers mois qui sont forcément affectés, mais nous, on était dans une croissance forte parce que justement, on a travaillé tous ces points-là, en fait. Et on en vient sur la restauration, on en vient sur le merchandising, on en vient sur tout ce qu'on peut proposer à nos clients. Quand on écoute les clients, on sait ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, ils consomment. Quand on n'écoute pas, on impose.
Ouais.
Voilà. C'est un peu la différence entre le consommateur et l'usager. C'est-à-dire que l'usager, on l'oblige à prendre ce qu'on lui demande. Le consommateur, on s'oblige à répondre à ce qu'il souhaite. Ouais. Et il faut être dans cette dynamique-là.
On est rentré, oui. C'est quelque chose sûrement d'assez général dans l'économie, d'être passé du push, si je ne prends pas l'exemple de la télévision, te pousser des contenus. Maintenant, bah non, évidemment, les gens vont aller.
Ils vont les chercher.
Veulent, au moment où ils le veulent, etc. Et toi, c'est OK.
Toute la déjà, force des plateformes, en fait, toutes les formes des Netflix et autres, hein, c'est justement je vais chercher le contenu qui m'intéresse. Mm. La puissance, c'est d'avoir tout le contenu qui correspond aussi à la cible.
Je suis très fan de cette notion de bienveillance. Ça me fait penser d'ailleurs au. Je ne sais plus si c'est au Bhoutan, tu sais, qui mesure le bonheur intérieur brut de la population, pas seulement le produit intérieur brut, mais et d'ailleurs qui maintenant, je crois, est passé à la mesure de l'impact du bonheur intérieur brut sur le. Ce qui rejoint un petit peu ce que tu dis.
Oui, il y a aussi. Moi, il y a une notion que j'aime bien, qui est la double combinaison, et on va revenir à ton KPI, c'est le ROI, qui ne se bat pas avec le ROE, le Return on Emotion. Mais en fait, le ROE vient amplifier le ROI. Et c'est vraiment ça, c'est que ce E pousse le I plus fort et non pas contre. Et je crois que c'est ça, nous, c'est voilà, le return on emotion, bonheur, émotion, il est, je pense, clé. Et il le sera encore plus dans le contexte actuel et encore plus demain. Parce que d'abord, on voit bien que. On a envie de revivre ces grands moments, ces rassemblements, ces moments de partage. Et on a envie de vivre quelque chose. Et ce REE, il sera un élément fort pour nous.
Et ces expériences, elles ont une valeur qui ne s'achète pas comme on achète un produit. Quoi. En tout cas, on est... Je l'ai déjà dit, mais comme disait ma grand-mère, je ne vais pas me faire enterrer avec mes vêtements, je me ferai enterrer avec mes souvenirs.
C'est ça.
Et c'est un petit peu le même sujet, peut-être. Voilà, une petite spéciale dédicace à ma grand-mère. J'aime beaucoup aussi cette notion de return on emotion. Dans le retail, on parle beaucoup du... Forcément, l'indicateur principal étant le chiffre d'affaires par mètre carré, on essaye de parler maintenant d'expérience par mètre carré. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire vivre comme expérience par mètre carré ? Quatrième question, si tu le veux bien. Tu le disais, c'est beaucoup de travail pour arriver à ça. Et devant la masse de travail, certains se disent par où je commence, où est-ce que je vais y arriver, où est-ce que la montagne n'est pas trop haute. En tout cas, comment je fais pour aborder ça ? Parce que c'est des nouveaux défis que les boîtes, de manière générale, dans ton secteur, doivent remporter. Par où commencer ? Ou quels sont, pour tourner la question un petit peu différemment, les changements qu'il faut embrasser en premier, qui sont des changements structurels, des changements de culturels, de people, d'organisation dans une boîte ? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire ça ?
Je pense que le point principal, c'est de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est le client au centre. C'est-à-dire qu'il faut absolument partir de ce postulat, c'est que le client doit être au centre des préoccupations. Ce qui veut dire que l'organisation, elle doit être tournée autour des clients et non pas autour de l'entreprise ou de sa structure qui imposerait son organisation à ses clients.
Encore une fois, c'est plus du push.
Voilà.
C'est pas l'entreprise qui pousse quelque chose à ses clients, c'est le client qui doit venir le chercher.
Exactement. Et du coup, l'organisation qui va derrière, elle doit faire en sorte de répondre aux attentes du client. Donc, l'idée, ou en tout cas nous, ce qu'on a mis en place, ça veut dire travailler de manière plus transversale, moins silotée. Parce que quand on travaille de manière silotée, on est efficace, mais on est efficace dans son coin. Et au final, on se retrouve à imposer, si on a 5 silos, on se retrouve à imposer à un client 5 modes de fonctionnement correspondant à chaque silo. Sauf qu'on oublie un truc, c'est qu'au bout, il y a le client. Et le client, lui, ce qu'il veut, c'est un mode de fonctionnement. Donc, il faut inverser la tendance et l'organisation qui va avec pour faire en sorte de dire, ben voilà, que veut le client ? Comment je m'organise derrière ? Et comment, du coup, je transversalise, c'est français, mais comment je rends transversale l'organisation ? Je désilote. Première chose, c'est ce qu'on a fait nous, essayer de désiloter les équipes, de les faire travailler ensemble et du coup, de travailler plus en mode projet aussi. De travailler à partir d'enjeux, de problématiques, de stratégies, de déploiement d'actions et de constituer autour de la table, sur chaque problématique, les experts. Et les experts, ils sont à nouveau sur chaque point. C'est un peu comme ça que nous, on a avancé. Moi, j'avais présenté, après mon arrivée, donc un plan stratégique qui se déclinait en plusieurs grands chantiers avec un certain nombre d'actions, plusieurs dizaines d'actions. Et chaque action faisait l'objet de travail de membres différents, de différents départements, pour répondre à la fin, non pas aux besoins du département, mais au livrable qui était un besoin du client.
Et voilà, je crois qu'on pense pas toujours. Des fois, on pense projet.
Ouais, on oublie.
On oublie la finalité de ce qu'on fait.
On oublie la finalité et en fait, à la fin, quand on oublie ça, un client qui n'est pas au centre, c'est un client qui à un moment peut être insatisfait. Et un client qui est insatisfait, c'est un client qui revient pas, c'est un client qui va pas vivre une bonne expérience en fait. Donc c'est vraiment ça. Et moi, je suis vraiment défenseur de ce client centrique. En disant, on le met au cœur des préoccupations, on le comprend, on s'organise autour de ça. C'est pas simple, parce que ça veut dire que c'est aussi des changements de méthode, des changements de travail, sans casser la machine, parce que la machine, elle fonctionne bien aussi. Donc c'est toujours des ajustements, il faut le faire aussi par touche. Ça passe aussi par, bien sûr, une organisation interne, ça c'est sûr, mais ça passe aussi, moi je pense, par l'organisation aussi matérielle, les bureaux, etc. On avait lancé une réflexion sur comment faire en sorte, on a des bureaux qui sont un peu éclatés sur plusieurs lieux différents, ce qui ne facilite pas la communication, donc le travail transversal. Comment on fait en sorte que, malgré cette contrainte, on dépasse cette contrainte. Mais c'est quelque chose qui, en fait, on est en train de revoir, parce que à l'aune de ce qu'on a vécu sur ces dernières semaines, on se rend compte que là aussi, la façon de s'organiser demain va évoluer. Et donc, on est en train de réfléchir à notre organisation du travail physique, spatiale, pour répondre à tous ces enjeux-là.
Parce que c'est vrai que culturellement, enfin, on pourrait imaginer, oui, des changements structurels, culturels, etc. Vos bureaux sont au cœur de l'aréna. Mmh. Ça fait rêver, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, de se dire, on ouvre une porte et on rentre dans la salle de spectacle. C'est tout de même complètement magique. Donc vous, la culture du client, il y a des boîtes qui sont très loin de la culture du client en physique, ils ne le voient pas. Vous le voyez tous les soirs dans les 140, c'est ça, événements, ouais, à peu près annuels. Ouais. Vous êtes au plus près de lui et s'il n'est pas content, il vous le dira, c'est vrai. Donc c'est moins culturel quelque part que structurel, ce que tu nous dis, les changements que vous avez mis en place, ils sont dans la manière d'adresser ces sujets-là plutôt que,
oui,
que dans la culture que vous avez déjà, cette culture client. Elle est...
le client, on voit, le spectateur, on le voit, on entend les répétitions, enfin, on est baigné dedans, en fait. Donc c'est vrai qu'on a cet avantage-là, et je pense que c'est très important d'être aussi sur le terrain, parce que c'est là qu'on voit les choses, en fait, sur le terrain. Mais il y a, voilà, derrière, il faut, c'est plus une organisation, disons, bah, quelles sont les priorités liées à nos clients, comment, quand j'ai écouté mon client, bah, comment de cette écoute, je le retranscris en organisation et en livrable là-dessus, quoi.
On arrive à notre dernière question. On peut évidemment pas faire l'impasse sur la période que l'on traverse, ou que l'on a traversée, et qui est en tout cas dans votre cas de salle de spectacle, je vois que les cinémas ouvrent dans une dizaine de jours, salle de juin. Pour vous, les salles ne sont pas encore ouvertes. C'est une période, j'imagine, hyper particulière. Est-ce que ce que l'on a vécu dans ta vision va avoir un impact long terme sur la manière dont on consomme, désolé si le mot n'est pas très joli, du spectacle, de l'expérience, de l'événement dans les salles de spectacle?
Je ferai un peu une réponse de Normand. Je dirais oui et non, en fait. D'abord non, parce que vivre un concert, tout à l'heure je parlais de communion, c'est un moment de communion entre un artiste et un public, et ce moment de communion, il changera pas, en fait. L'être humain, ce qui définit l'être humain, c'est le fait de se rassembler et de vivre quelque chose en direct, en face. C'est la définition de l'être humain, c'est de ressentir des émotions et de les vivre ensemble. C'est ce que nous, on propose dans un concert, c'est que ça crée cette communion. Et ça ne changera pas. On va retrouver ces grands moments. C'est certain, il ne faut pas être totalement naïf, qu'on ne va pas le faire du jour au lendemain. Ça va revenir progressivement, parce qu'il faut rassurer, il faut s'adapter, etc. Et je pense que la rassurance, après avoir vécu plusieurs mois difficiles, et puis avec beaucoup de médias qui adorent avoir ce côté un peu anxiogène, de dire, quand on met du monde ensemble, est-ce qu'on n'est pas à la fin du monde, etc. Bon. Je crois qu'il va falloir qu'on ait ce moment, et nous, on imagine une séquence un peu progressive pour revenir à une activité normale, mais je pense qu'on ne pourra pas changer ça. Ce qui va changer, à mon sens, c'est plus certains comportements. Oui, on va incorporer certains comportements de gestes barrières, de mesures sanitaires.
Sur le long terme, tu penses, ou...
Oui, on va installer pas d'effet de distanciation, mais on va installer peut-être, enfin, certainement, du gel, les gens vont faire plus attention, nous on va faire plus attention aussi au nettoyage régulier, des points de contact, etc. Ça, je pense que, donc, comportement, c'est des choses qui vont changer. Après, le changement le plus profond que j'y vois, c'est tout ce qui va changer dans le parcours et l'expérience client, au sens du le sans contact, le touchless. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a eu une accélération très forte, pas que de la dématérialisation, mais du sans contact. Donc il y avait déjà le e-ticket, le m-ticket, ça existait. Je crois qu'aujourd'hui, demain, c'est quasiment obligatoire. Il y a, sur la partie restauration, on discutait de, tiens, un peu de commande, de précommande, de click and collect, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on accélère là-dessus, on accélère sur le merchandising, on accélère sur les expériences qu'on fait vivre. Et je crois que cette crise a eu ce bénéfice de faire gagner plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'on y venait de toute façon. Mais d'un coup, il y a eu une puissance d'accélération sur le parcours sans contact. Alors, sans contact dans dans la partie utilitaire, en fait, hein, pas dans le sens contact humain. Hein. Et ça, à mon avis, on ne reviendra pas en arrière. Les technologies, et je crois beaucoup qu'on peut parler de transformation de l'expérience digitale de nos spectateurs. C'est qu'ils vont vivre dans leur parcours une manière différente, en fait. On va les engager plus, on le voit bien, on l'a bien vu dans les restaurants. Une grande majorité de restaurants ont commencé sur les cartes à les faire sous forme de QR code. Voilà, c'est des choses, on se disait il y a 4 mois, ah oui, comment ça marche? Ah ben oui, mais c'est un investissement, machin. Il y a plein de choses à imaginer. Ouais. Puis c'est des investissements à valeur. Derrière, on peut faire parrainer ça par un partenaire, pousser des offres personnalisées, on en revient à la connaissance du client. Je connais mon client, je peux lui proposer quelque chose de plus personnalisé, etc. etc. Et je crois qu'on va vivre un phénomène d'accélération très fort. Très, très fort sur cette partie-là.
Et ce sujet du sans friction, d'ailleurs, on dit les touch points. En anglais, là, il y aura moins de touch.
Ouais.
Plus être touchless, mais il y aura toujours autant de touch points. Ce côté du sans friction, il va très certainement au sens de ce que tu disais tout à l'heure, qui est une fluidité dans le parcours, dans l'expérience qu'on vit depuis le moment où on prend son billet jusqu'au moment où on s'en va du spectacle ou qu'on peut peut-être revivre des choses après le spectacle. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut imaginer, on peut entendre dans ce que tu dis, qu'il y a une fluidité améliorée parce que, ben oui, moins il y a de contacts et plus on dit seamless.
Voilà, on travaille sur tout ce qui crée du temps d'attente, qui est du temps un peu perdu, et comment, en fait, par ce touchless, on va casser ce temps d'attente. Nous, les problématiques chez nous, elles sont assez simples, c'est l'entrée, la séquence d'entrée, avec le système de contrôle, qui est des temps incompressibles, c'est ensuite quand je veux me restaurer, quand je veux aller au stand de merchandising, etc. Et c'est tout ça où, finalement, quand j'attends 20 minutes, quand je fais la queue 20 minutes, parce que forcément, dans nos systèmes, tout le monde va au bar en même temps, parce qu'on ne veut pas rater le spectacle, donc on a tous envie de manger au bar en même temps. Donc à un moment, bon, on ne peut pas gérer ces crêtes de 15 000 personnes en 30 secondes. Mais justement, toute cette partie digitale, cette partie touchless, va nous permettre de travailler sur la commande en amont, le click and collect, etc. Et finalement, de se dire que ce temps-là, plutôt que ce soit un temps perdu, on va proposer, c'est là où il faut travailler sur une partie d'activation et d'engagement, on va proposer des expériences différentes. Et ce temps qui était prévu, eh ben, ça va être un temps plutôt sympa, d'expérience, etc. Et je pense que c'est un de ces enseignements de cette crise, c'est qu'elle nous permet d'accélérer là-dessus.
Ok, merci. Alors, on arrive à la fin de ces 5 questions, mais en fait, j'en ai une 6e. en t'écoutant, ça me fait penser à un autre sujet. J'aimerais bien que tu nous partages, si tu veux bien, ta vision... parce que tu en parlais tout à l'heure, du spectacle vivant à distance. On voit les cinémas se sont transformés dans leur contenant, j'allais dire l'enveloppe d'un cinéma n'est pas la même aujourd'hui en France que ce qu'elle était il y a 30 ans. Mais ce qu'on vit à l'intérieur aussi, quand on voit le Bolshoï, quand on voit l'opéra, quand on voit des spectacles comiques en direct dans un cinéma, est-ce que ça, tu penses, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ce fameux sujet de... Voilà, c'est une communion entre un artiste entre un artiste et son public. Est-ce qu'on peut vivre ça à distance? Est-ce que ça a de l'avenir, ce sujet du spectacle vivant à distance? Même si c'est pas nouveau, la télé a toujours mis des choses en live. Mais là, on est quand même dans un environnement, je trouve, dans le cinéma, et n'hésite pas évidemment à me contredire, hein, qui est quand même un lieu fermé, une pseudo-salle de spectacle dans laquelle on va vivre quelque chose en direct, en live, avec d'autres, donc aussi en communion, je ne suis pas chez moi en train de regarder la télé avec 2 ou 3 personnes. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut recréer ça? Est-ce que la distance peut continuer à exister ces spectacles peuvent continuer à perdurer à distance?
Pas du tout.
J'aime bien
pas du
c'est
tout. J'y crois pas. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin, continuer à perdurer, je pense que ça ne marche même pas en fait aujourd'hui. On essaye, on teste, on essaye de faire des choses, mais le spectacle vivant, il y a le mot vivant. Et là, c'est pas du spectacle vivant, c'est du spectacle vivant par procuration, en fait. C'est-à-dire que entre le contenu artiste et le fan, il y a un écran, en fait. Et l'écran, c'est un objet physique qui casse l'activation des sens. On voit, mais on ressent pas. Et le ressenti, c'est essentiel. Et donc, j'y crois pas. Et je ne crois pas que on peut vivre un concert, enfin que demain on vivra les concerts comme ça. Ça ne veut pas dire que ça marche pas ou qu'il en faut pas, parce qu'on est tous contents à un moment de revivre le concert chez soi, on est tous contents de visiter un musée en visite virtuelle, etc. Mais c'est pas la même chose. On visite des coulisses. Je sais pas si on va visiter le Louvre comme ça en visite virtuelle. On ne recherche pas la même finalité que d'aller au Louvre. Pour moi, on cherche plus à avoir une visite qui est peut-être un peu plus fine parce qu'on sait où on veut s'arrêter, sur quel artiste on veut s'arrêter, avoir plus d'informations. On ne cherche pas à vivre l'émotion de voir une œuvre face à soi. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que ça ne remplacera pas. Voilà, donc on continuera à en avoir, mais je reviens sur le mot, pas du tout, ça remplacera le spectacle vivant. Jamais. Parce que on ne peut pas vivre des émotions par procuration dans notre métier à nous. On fait des tests aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des concerts en drive qui sont développés. Mais toutes ces choses-là, elles sont plus là aussi pour continuer à créer une dynamique en ce moment, continuer à faire vivre les choses. Et je pense que c'est tout à fait respectable. C'est que dans un moment où on n'arrive plus à se rassembler pour les raisons qu'on connaît, je trouve que c'est bien d'avoir des initiatives comme ça parce que ça permet de continuer à créer ce lien, etc. Et pour autant, je ne crois pas du tout que demain, ça sera l'avenir. Non, je crois qu'on continuera à vivre là. Et je voudrais donner une preuve de ça, c'est que nous, dans les salles de spectacle, on a tout vécu. Enfin, on a tout vécu. On a traversé pas mal de crises.
Bien sûr.
On a vécu les attentats. Beaucoup disaient après les attentats, oh là là, c'est fini les salles de spectacle. Bon, on n'a jamais fait plus de fréquentation que l'année dernière. Ensuite, on a vécu les gilets jaunes, qui craignaient la peur d'aller dans un endroit, etc., etc. Oui. Après, on a vécu les grèves. Maintenant, on vit cette crise. On s'en relèvera. Enfin, une fois qu'on aura passé cette période difficile, on s'en relèvera et on continuera notre métier. Parce que je crois que ce métier-là, il est important, il est essentiel. C'est de vivre sa passion. Je disais beaucoup le mot de passion, mais nous, on est un lieu de passion, en fait. Des passionnés qui viennent vivre une passion. Et ça, ça se fait par le ressenti.
On sent la conviction dans ce que tu dis du fait que peut-être même à travers, alors je ne sais pas si moi qui l'interprète comme ça, mais justement parce qu'il y a un certain nombre de crises que l'on vit qui sont sociales, culturelles, économiques, de tous ordres, on a besoin de ces moments plus que tout et l'expérience qu'on vit, elle est de plus en plus précieuse par rapport à des biens physiques, par rapport à des, voilà.
Et ce oui, on a, en fait, on... Il y a quelque chose d'un peu antinomique, mais on a besoin de ces moments de déconnexion pour mieux se connecter avec son artiste ou son événement sportif préféré. Et c'est un peu ce côté un peu schizophrène. Je me déconnecte pour mieux me reconnecter à autre chose et à vivre autre chose. Et je crois que ces choses-là, voilà, on a besoin de vivre les choses.
Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Je vais retenir beaucoup de choses, mais enfin, des choses très marquantes dans ce que tu dis sur la mise au cœur évidemment du client, la prise en compte de la bienveillance presque comme un KPI, et ça fonctionne, et vous l'avez testé, et ça fonctionne, cette notion de return on emotion, si on arrive à mesurer ça, ça emmène encore dans d'autres perspectives, dans d'autres directions qui, encore une fois, dépassent les pures relations transactionnelles qu'une entreprise, quelque part, peut avoir avec ses clients. Je retiens ce que tu nous dis sur cet écran qui casse, quoi qu'il arrive dans votre métier, ça casse l'activation des sens. Et on sait que, forcément, quand on dit expérience, on dit émotion, on dit sens. Et tu nous as parlé du polysensoriel aussi tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux un mot de conclusion ?
Non, écoute, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ça. C'est vrai que je pense que c'est clé. On est dans une période qui nous fait rendre compte qu'on ressent ce besoin de revivre ces moments-là, en fait. Et finalement, avant, on le faisait parce qu'on aimait ça, on avait envie, et aujourd'hui, on en a besoin. Donc voilà, nous, on a hâte de pouvoir vite refaire vivre ces grands moments à nos spectateurs. Et en fait, on est tous mobilisés, et sachez que dès qu'on pourra, on sera les premiers à tout faire pour que ça se passe bien, et on a vraiment envie. Voilà.
Et nous, on a très hâte en tant que spectateurs de revenir recréer des souvenirs et des expériences à l'Accor Arena. Merci beaucoup, Nicolas, pour
ton Merci
temps.
À toi.
À très bientôt.
Merci.
Merci.
Je ne fais que défendre mes droits de consommateur.
On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous avez de naturels produits.
Un bon vendeur a toujours un sourire sincère.
Le client est roi, et le client, c'est vous.